Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Oui !
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio B, à l'écoute des chroniques des bibliothécaires. Aujourd'hui, Kevin va vous présenter un film d'animation, Marjorie une bande dessinée, moi-même un roman adulte et enfin pour finir, Lison un roman ado. Et je laisse la parole à Kevin.
Merci beaucoup Sophie. Bonjour, ou plutôt hello. Let me introduce you to Wolfwalker, a movie from...
Kevin, je suis désolée, mais c'est pas possible l'accent anglais, là.
Ouais, mais c'est parce que je vais parler d'un film irlandais, en fait.
Et... Bah, fais-le en français, s'il te plaît, pour notre bien à toutes et tous.
Ok, bon. Bah, je vais donc vous présenter un film qui s'intitule Le Peuple Loup, de Tom Moore et Ross Stewart. Après Brendan et le secret de Kells, puis Le Chant de la mer, le réalisateur et son animateur nous font encore une fois plonger dans le folklore irlandais. Le Peuple Loup est un film d'animation, principalement en 2D, à la main, mais habilement complémenté d'images de synthèse pour un résultat juste magnifique. Tout à fait en dehors des standards actuels de chez Disney ou Pixar. C'est l'histoire de deux petites filles, Robin, la fille d'un chasseur de loups, et Meb, une wolf walker.
Et on avait dit en français.
Ouais, mais ils disent comme ça dans le film en fait. Une marcheuse loup si tu préfères, mais ça veut rien dire. Bon, en gros, quand elle s'endort, elle se transforme en loup.
Waouh !
Et ces fillettes vont être amenées à se rencontrer, pour notre plus grand plaisir, puisque s'ensuit une série d'aventures tout à fait passionnantes. Du côté des thèmes abordés, bien que l'intrigue ayant lieu au Moyen-Âge, c'est très actuel, puisqu'on y traite aussi bien de notre rapport à la nature que de l'obscurantisme religieux, et tout ceci avec des filles fortes et débrouillards au premier plan. Je vous conseille ce très beau film à regarder en famille dès 7-8 ans. Et pour conclure, tout comme les deux films précédents, c'est le groupe de musique celtique irlandais Killa qui se charge de la bande originale du Peuple Loup. Mais on retrouve aussi quelques morceaux contemporains, dont celui avec lequel je vais vous quitter. Il s'agit de Running with the Wolf d'Aurora.
Bonjour, alors moi après Kevin, je vais vous présenter une BD qui s'intitule A Short Story, la véritable histoire du Dahlia noir, écrite par Run et dessinée par Florent Boudou. Les auteurs ont choisi de raconter l'histoire d'Elizabeth Short, plus connue sous le pseudonyme qu'on lui a donné et qui est celui du Dahlia noir. On va donc suivre l'histoire de cette jeune femme qui vient de s'installer à Los Angeles, car elle rêve de devenir une star hollywoodienne. Et on va la suivre jusqu'à son horrible assassinat, 3 mois plus tard. Ce crime fait partie des meurtres ayant été commis à Los Angeles à la fin des années 40 et qui ne sont toujours pas élucidés à ce jour. Les auteurs ont voulu construire un récit extrêmement précis et documenté sur ce fait divers, et pour cela, ils se sont appuyés sur des documents qui ont été déclassifiés et qui proviennent du FBI. Cette BD aborde surtout les derniers moments de la vie d'Elizabeth Short, cette jeune femme naïve et prête à tout pour devenir actrice. Nous sommes en 1946, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre est finie depuis un an et des soldats, des marins, des officiers en permission arpentent Los Angeles en quête de distraction. On retrouve beaucoup de bases militaires d'ailleurs dans la région. Elizabeth Short avait l'habitude de se promener seule dans les rues de la ville et elle a forcément rencontré des militaires qui étaient attirés par sa beauté ingénue. Mais elle ne veut s'engager que dans des relations éphémères auxquelles elle ne souhaite pas donner suite. Par contre, elle aime correspondre avec eux et elle leur écrit des lettres enflammées. Dans ces lettres, elle s'invente une vie imaginaire et raconte son quotidien d'actrice. Lorsqu'un homme l'aborde dans la rue, elle se laisse inviter et va jusqu'à passer la nuit avec lui sans lui laisser espérer plus. C'est vrai qu'elle a côtoyé beaucoup d'hommes et certains hommes étaient vraiment louches. Mais d'autres ont eu pitié de sa détresse et ont voulu l'aider. Ils seront dans les derniers instants de sa vie les principaux suspects. En effet, les enquêteurs ont eu beaucoup de mal à reconstituer ce qu'elle a fait la dernière semaine, où elle était encore vivante et quelle personne elle a pu rencontrer. À cela, beaucoup de rumeurs ont circulé et ce fait divers a enflammé l'Amérique. 75 années après, le monde entier s'interroge encore sur l'identité du tueur. C'est ce qui a poussé Ron et Florent Maudou à se passionner pour le destin d'Elizabeth Short. Avant eux, un autre auteur américain, James Ellroy, avait écrit un roman policier autour de l'affaire du Dahlia Noir en 1987. Ron et Florent Maudou, eux, n'ont pas voulu s'intéresser à l'affaire, qui a fait sensation, mais ont plutôt cherché à réhabiliter la vie d'Elizabeth Short. Voilà, je viens de vous présenter une BD qui s'intitule « A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir » que vous pouvez retrouver à la médiathèque Vaillant.
Alors, avant de commencer ma chronique, j'ai une question. Vous êtes plutôt mer ou montagne ?
Mer !
Montagne.
Oh, montagne.
Oh, bon, quand même.
À la montagne, il y a des marmottes.
Vraiment, toi ?
C'est un argument massif.
Eh bien, oui, cet argument est massif et c'est ce que je peux vous démontrer grâce au livre que j'ai entre les mains. Le livre de Valentine Gobi, L'île haute, publié chez Actes Sud cet été. Alors l'île haute, le titre est trompeur, car cette île n'en est pas une. L'île haute est le surnom donné par un enfant de 12 ans à une montagne de la vallée des Ours à Valorcine, vers Chamonix. Son île, son échappée pour fuir Paris et les rapts nazis en février 1943. Juif, l'enfant doit changer de nom, de ville, de famille pour se mettre à l'abri. C'est ainsi que le petit Vadim Pavlevitch devient Vincent Dorcel et troque son appartement des Batignolles, son asthme et les immeubles parisiens pour une vie de montagnard. Des sommets à perte de vue, des pâturages pour ses troupeaux, des courses de luge et une vie d'apprenti en tout. Car c'est là le fil conducteur de ce récit initiatique. Vadim porte un regard neuf et ébloui sur la nature qu'il découvre pour la première fois. Ce qui lui vaut souvent les répliques malicieuses de sa nouvelle amie Moinette. « T'as jamais vu la neige ? T'as jamais vu de forêt ? Non mais t'as jamais mangé d'œufs de grenouille ?» Durant les 250 pages de ce roman, on redécouvre la découverte de la nature et c'est un vrai cadeau, comme dans cet extrait que je vais vous lire, page 121. Il a trop souvent le nez en l'air. « T'as jamais vu de ruisseau ? Pas cette myriade d'écoulements aux sources mystérieuses, eaux de fonte qui strient les pentes et chuchotent jusque dans la nuit. T'as jamais entendu d'oiseaux ? Pas ce concert de chants impossible à détourner, Moinette. C'est comme écouter une symphonie pour la première fois. Les instruments se mêlent en une seule texture sonore, où Vincent est incapable de distinguer la mésange du tétralyre, le merle du casse-noix. Et si le pi martèle, les mélodies s'enroulent les unes aux autres et forment une natte de sons qui ricochent tous ensemble d'un bout à l'autre de la vallée. Vincent est constamment le garçon qui n'a pas vu, pas entendu, pas goûté, pas senti, pas touché, pareil à ce printemps des premiers jours. Une forme floue, définie par défaut, pas l'hiver. À Paris aussi, Vadim a existé par défaut les derniers mois. Il y a en lui quelque chose d'étranger, qui là-bas l'exclut, et ici est une chance. Alors, peut-être que les lecteurs moins friands de descriptions se lasseront des scènes bucoliques, mais accrochez-vous, car la beauté du texte se cache aussi dans son écriture, puisque l'autrice adopte le patois alpin, grâce auquel une seille est un seau, un mauzon, un veau, une pauvotte, une pomme de pin. Ce livre est un hymne à ce qui fait le charme de nos régions. Leurs paysages, certes, mais aussi leur patois, leurs coutumes, leur agriculture, leur rythme propre, leurs habitants. C'est un voyage juste à côté de chez nous, dans les Alpes, mais en 1943. Retrouvez L'île haute de Valentine Gobi et ses 14 autres romans dans vos médiathèques de Bourg. Et maintenant, je laisse la parole à Lison.
Merci Sophie. Alors, moi je vais vous parler d'un roman pour ados de Meg Rossoff qui s'appelle Caribou Baby. Étonnant, archi-original, indispensable, nous dit Suzy Morgenstern avec plein de points d'exclamation à propos de Caribou Baby. Mais moi je sèche, je ne sais pas comment vous en parler. Alors avec l'aide de Sophie et de Kevin, je vais plutôt vous lancer dedans, vous allez voir. Regard mauvais de la sage-femme.
À votre âge, on a généralement du mal à s'attacher à son nouveau-né.
Et puis, comme si ça lui arrachait la langue de l'admettre.
Mais ça viendra.
À mon âge ? Sérieux ? C'est pas comme si j'avais 12 ans non plus. Elle et moi, on avait passé les 10 dernières minutes à s'échanger des coups d'œil hostiles, mais j'étais quand même admirative de la manière dont elle tenait mon bébé. Elle le serrait tendrement contre ses maxi gros nichons et ne quittait pas du regard ses grands yeux veloutés. Quand elle lui souriait à lui, c'était un vrai sourire. C'était déjà ça. Elle ronronnait.
Sa kiki est tout mignon crognon, c'est qui le bébé caribou de sou le plus choupinou ?
Mon bébé la contemplait en retour, grands yeux écarquillés pleins d'amour.
Regardez-moi ses longs cils,
a-t-elle dit en se tournant à nouveau vers moi.
Vous ne vous attendiez peut-être pas à ça, mais il est beau comme tout.
Vous voudriez pas dire ça à ma mère ? J'ai maugré. Elle arrive même pas à le regarder. Et de fait, je n'étais pas sûre qu'il soit beau comme tout. Les sourcils froncés, j'ai inspecté la courbe de son nez, ses petites narines. Elle a raison d'un côté, il est un peu poilu.
Allons, allons, ne vous inquiétez pas pour ça, quelle importance !
A dit la sage-femme.
Regardez voir un peu ses tout petits sabots.
Du bout des doigts, elle a agité l'un des pieds minuscules de mon bébé, noir d'ébène vernissé. C'était mignon, c'est vrai. J'ai fermé les yeux encore un peu dans les vapes à cause de la césarienne. Je me demandais comment ça avait pu arriver, franchement. L'échographie à 20 semaines avait pourtant eu l'air parfaitement normale.
Ça arrive parfois en fin de grossesse,
a dit l'obstétricien.
La plupart du temps, on ne le détecte pas lors de la prise de sang.
Alors qu'il parlait, tout ce que j'entendais, c'était « Je suis un expert, vous n'êtes personne, et en même temps, je ne suis absolument pas responsable de la situation. »
On a eu un petit nombre de naissances pas techniquement homo sapiens cette année,
a-t-il ajouté.
C'est assez rare, surtout des caribous. On ne sait pas trop pourquoi.
J'ai froncé les sourcils et soudain j'ai compris. En fait, c'était pas un docteur, c'était un zombie, garanti 0% d'empathie. Bien sûr, quand maman l'a menacé d'intenter un procès à l'hôpital pour cette naissance non homo sapienne, il a tout de suite eu l'air moins sûr de lui, comme si d'un coup il s'était senti mal, et encore plus que moi. Voilà, dans Caribou Baby, vous l'aurez compris, Jess, 17 ans, met au monde un bébé caribou. Ce livre, pourtant, n'est pas un roman fantastique, ni de science-fiction. Juste un récit étrange, décalé, absurde au possible, mais extrêmement juste. Je ne pensais pas, avant de lire cet ouvrage décalé, que faire un récit aussi fin, drôle et surtout, je le redis aussi juste, en partant d'une idée aussi folle, était envisageable. Mais voilà, c'est possible, et Meg Rossoff nous le prouve, avec en prime un humour explosif et un personnage d'adolescente vibrante et décapante. L'histoire aborde des thèmes qui peuvent paraître graves, mais grave il ne l'est jamais, ni tragique, ni larmoyant. En le lisant, on sourit, on réfléchit, on s'amuse, on s'attendrit, on rit parfois franchement. Jess, sa mère, son petit copain Nick et son bébé Caribou sont plus vrais que nature. Et on a l'impression d'être présent avec eux à chaque scène de dialogue, de les voir se frôler, se heurter, se piquer, se parler, se regarder, se taire. Évidemment, il y a quelque chose derrière cette histoire de bébé Caribou. Évidemment, Meg Rossoff nous parle de différence et de handicap sans jamais explicitement nous en parler. Fait-elle vraiment un livre sur le sujet ? Pas tout à fait. Tous nos repères sont bousculés dans cette lecture, mais je vous assure, je vous conseille ce roman. Ado, adulte, caribou, vieux ou jeune, lisez cette histoire pour passer un excellent moment et en ressortir un petit peu différent. Intrigué, pensif, décalé, mais charmé, je vous le promets. Voilà, c'était Caribou Baby, édité chez Rajo, par Maigresoff, et vous pouvez le trouver à la médiathèque Camus.
Merci d'avoir écouté les chroniques des bibliothécaires, et nous vous souhaitons belle fête de fin d'année.
Belle fête
à
de
tous.
Fin d'année.
Bonne fête
à tous.
Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Oui.